Philippe Reva, bonsoir.
Bonsoir, l'artiste chinois Ai Weiwei vient d'être libéré sous caution. Son arrestation avait provoqué les protestations de l'Occident. La Chine relâche un peu son étreinte. On appellera tout de suite notre correspondant en Chine, Alain Arnaud. 12 ans, c'est la délicate décision du Conseil fédéral. Aujourd'hui, les crimes pédophiles commis sur des enfants jusqu'à 12 ans seront imprescriptibles. C'est ainsi que le gouvernement traduit l'initiative sur l'imprescriptibilité des crimes pédophiles. Les initiants auraient préféré 14 ans, d'autres jusqu'à 16, ou placer la limite d'un acte pédophile. On confrontera l'avis de la ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga, et celui de la présidente de l'association Marche Blanche, Christine Bussa. Le président du Parti socialiste suisse, Christian Levrat, est notre invité, de retour d'un séjour en Espagne, à la rencontre des indignés. Il y est allé pour comprendre, disait-il hier sur Twitter. Eh bien, qu'a-t-il compris exactement à ce mouvement qui menace aussi les partis installés, dont les partis socialistes? Christian Levrat avec nous dans quelques minutes. Christian Levrat qui débattra avec nous de ce nouveau concept, la démondialisation. La démondialisation qui pourrait bien être le mot de l'année 2011, du moins de cet été 2011, la démondialisation. Le socialiste français Arnaud Montebourg fait campagne sur ce concept. Il vante un nouveau protectionnisme moderne, vert et européen. On va dresser le bilan de la mondialisation, ce libre-échange mondial initié pour grande part à Genève, au GATT, puis à l'OMC. Avec nous, le directeur adjoint de l'OMC, Victor Doprado, Christian Levrat et puis la verte vaudoise, Béatrice Métro. Béatrice Métro qui est avec nous aussi en tant que syndic de Botan. Un village qu'on pensait tranquille, mais qui aurait presque des airs de Bronx, du Gros de Vaud. Si l'on en croit un article de 20 minutes ce matin, les autorités auraient même envoyé une lettre aux habitants qualifiant la situation d'insoutenable. Mais que se passe-t-il donc à Botan? On se réjouit d'entendre la syndic dans quelques instants. La question de l'alliance avec l'UDC agite toujours les libéraux radicaux. Dans le canton de Vaud, le PLR dit non à l'alliance avec l'UDC au premier tour du Conseil des États, au risque d'éparpiller peut-être les voix de droite. À Genève, le président libéral sortant quitte avec fracas la direction du PLR pour cause de divergence, justement, sur ce point. On entendra la présidente des radicaux vaudois, Christelle Luisier. Devenez propriétaire avec 10% de fonds propres seulement. L'offre alléchante de la banque Crédit Agricole s'affiche sur les murs de Suisse romande ces jours-ci. Une offre qui suscite pas mal de questions à l'heure où la BNS brandit la menace d'une bulle immobilière. Le Crédit Agricole manquerait-il de prudence dans ses prêts immobiliers? Le représentant de la banque s'en défend. On l'entendra tout à l'heure vers 18h25. Nous recevrons aussi Cornelio Sommaruga, l'ancien patron du CICR, est sur le point de partir en mission en Tunisie, la Tunisie de l'après Ben Ali. Un peu de soleil, quelques averses possibles, c'est le programme de demain, il fera 23 degrés maximum. Vendredi s'annonce changeant, le week-end sera beau et chaud, par contre, nous dira Éric Faucher, ce sera à la fin de ce forum.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Reva.
Le célèbre dissident chinois Ai Weiwei a été libéré sous caution, a-t-on appris il y a tout juste une heure par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Libéré, dit-on, après avoir reconnu une fraude fiscale. Weiwei avait été arrêté début avril à l'aéroport de Pékin. Il envisageait de s'installer en Europe, se disait harcelé par les autorités chinoises depuis des années. On a joint tout à l'heure notre correspondant en Chine, Alain Arnaud. Cette libération est inattendue. Est-ce que la pression internationale a pu jouer en faveur du célèbre artiste?
Bon, vous savez, on saura évidemment jamais si elle a joué un rôle, mais plusieurs observateurs mettaient en garde à trop réclamer la libération de l'artiste. On risquait de faire perdre la face à la Chine, qui du coup le libérerait d'autant moins. Mais bon, les pressions sont venues surtout des artistes et des musées internationaux, moins des gouvernements. Beaucoup de ces gouvernements se sont contentés d'évoquer leur inquiétude. Quant au sort d'Ai Weiwei, ils se sont bien gardés d'exiger une libération. La Suisse, par exemple, ne l'a pas fait. Et donc, on imagine que l'honneur est à peu près sauf pour Pékin.
Alors Alain, le gouvernement chinois, d'après l'agence officielle de presse, Chine Nouvelle, invoque un bon comportement de Weiwei et invoque surtout sa promesse de rembourser ses impôts. On parle de fraude fiscale, mais évidemment pas un mot sur la dimension politique de cet emprisonnement.
Et oui, et finalement, c'est plutôt bien joué que d'accuser Ai Weiwei de crimes économiques parce que c'est invérifiable, surtout dans un pays où la fraude fiscale est une sorte de sport national. Selon le communiqué de Chine Nouvelle, l'artiste a confessé, il a promis de rembourser, il s'est bien comporté et en plus il souffre d'une maladie chronique. Mais depuis plusieurs années, Ai Weiwei a été un acteur extrêmement gênant pour le pouvoir. Ses critiques, ses pieds de nez, ses combats ont toujours été très courageux. Beaucoup s'étonnaient de le voir encore en liberté. Il l'est resté longtemps, peut-être grâce à sa notoriété internationale, peut-être aussi parce qu'il est le fils d'un poète très important en Chine, ce qui fait de lui une sorte d'intouchable, ou ce qui faisait de lui une sorte d'intouchable. En tout cas, jusqu'il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai aussi que lui-même avait senti le vent tourner. Il avait déclaré récemment qu'il pensait bien que ses jours de liberté étaient comptés.
Oui, il disait même qu'il voulait s'installer en Europe. Vous qui l'avez rencontré, Alain, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire à présent? Est-ce qu'il va oser s'exprimer autant qu'il le faisait avant, par exemple?
Vous savez, c'est vraiment un grand mystère. Hein. Est-ce qu'il sera assigné à résidence? Est-ce qu'il pourra communiquer avec l'extérieur? Est-ce qu'il sera muselé? Est-ce qu'il a subi un lavage de cerveau durant les presque 3 mois qu'il vient de passer au secret? On est resté totalement sans nouvelles de lui, hormis une visite que sa femme a pu lui faire quelques minutes. Ils n'ont pu parler que de banalité. Son épouse avait déclaré qu'il était en bonne santé, rien de plus. En tout cas, on apprend aujourd'hui qu'il est libéré sous caution. En quoi consiste cette caution? Pas sûr qu'on le sache vraiment un jour, et pas sûr qu'on retrouve l'Ai Weiwei d'avant, ce serait même plutôt surprenant par les temps qui courent en Chine, même si lui ne rêve certainement que d'une chose, de continuer de lutter pour la justice et pour la liberté d'expression.
Alain Arnaud, notre correspondant en Chine. En Suisse, les actes de pornographie commis sur les enfants de moins de 12 ans devraient pouvoir être poursuivis à vie. Pas de prescription, pardon. Donc, en dessous de cette limite d'âge, le Conseil fédéral a rendu sa nouvelle copie de projet de loi pour faire appliquer l'initiative de la Marche blanche. Au départ, il avait proposé une limite d'âge de 10 ans. Ça avait été critiqué. Il l'augmente donc à 12. Agnès Schenker, vous êtes avec nous en direct du Palais fédéral. Il faut dire que la tâche du Conseil fédéral n'est pas facile. Il faut concrétiser en une loi des notions assez floues qui sont contenues dans le texte d'initiative accepté par les Suisses, c'était en 2008.
Oui, en effet, qu'est-ce qu'un acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère? Le texte adopté par le peuple en 2008 prête à interprétation. Il faut donc le concrétiser dans la loi pour savoir précisément dans quel cas l'auteur d'un délit pourra être poursuivi pendant toute sa vie. Sur la notion de puberté d'abord, le Conseil fédéral propose de fixer une limite d'âge à 12 ans. C'est un compromis entre les 10 ans qu'il proposait au départ et les 14 à 16 ans souhaités par certains milieux. Même si la puberté ne commence pas forcément au même âge chez tous les jeunes, il est en tout cas indispensable de fixer un âge limite, un critère clair pour assurer une application uniforme de la loi. Il serait d'ailleurs impossible de déterminer après coup, des années après les faits, si une victime était ou non pubère au moment où elle a été agressée.
Agnès, comment dès lors est-ce qu'on définit les délits imprescriptibles ?
Alors pour ce qui est des délits, le Conseil fédéral fixe une liste précise, le viol, la contrainte sexuelle et les actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des personnes incapables de discernement. Pas d'inscriptibilité en revanche pour ceux qui consomment ou vendent du matériel pornographique pédophile comme des photos ou des films. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a expliqué les raisons de ce choix.
Il faut quand même voir que l'imprescriptibilité, c'est quand même quelque chose qui va très loin. Alors on a dit qu'il faut se limiter sur des actes qui sont quand même graves. La distribution de pornographie avec les enfants, on dit là, il n'y a pas de contact entre celui qui vend, par exemple, ce matériel pornographique et l'enfant lui-même. Par contre, si pour la production de tel matériel pornographique, il y a un contact avec un enfant, bien sûr, là, ça tombe sous l'imprescriptibilité, comme on l'a décidé aujourd'hui.
Oui, il y avait aussi la question de savoir à partir de quand on applique les nouvelles règles, Agnès.
Oui, c'est juste, les délits pédophiles commis après la votation du 30 novembre 2008 sont imprescriptibles, ça c'est clair. Mais pour ce qui est des actes commis avant cette date, il y a des choix à faire. Le Conseil fédéral prévoit qu'on puisse poursuivre à vie les auteurs de délits qui n'étaient pas encore prescrits le 30 novembre 2008. Mais pour les délits plus anciens, qui étaient donc déjà prescrits à cette date, il n'y a plus rien à faire. Ce serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.
Agnès Schenker, merci.
Christine Bussa est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice de la Marche Blanche, vous êtes en quelque sorte la mère de cette initiative sur la prescriptibilité des crimes pédophiles. Christine Bussa, vous êtes déçue, 12 ans, vous auriez préféré 14 ans, c'est ça ?
Alors bien sûr, on aurait préféré 14 ans, ça tombe sous le sens, mais effectivement, comparé au premier projet du Conseil fédéral qui était de 10 ans, c'est quand même un grand soulagement. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il relève l'âge à 12 ans. Il faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui sont concernés et qui sont abusés entre 10 et 11 ans, donc ça laisse quand même déjà pas mal de victimes en moins, enfin en moins si on veut, de victimes qui auront la possibilité de déposer plainte plus tard. Donc c'est quand même, je dirais en gros, une satisfaction, oui.
Est-ce que la faute n'était pas en quelque sorte chez les initiants, Christine Bussin, en laissant la notion d'enfant prépubère? C'est difficile de mettre un âge là-dessus.
Non. Alors, je dirais que s'il y avait faute de la part du comité d'initiative, il y en a peut-être eu une qui était un problème de traduction du texte du français à l'allemand. Donc, le Conseil fédéral s'est basé sur le texte allemand. Et le texte allemand parlait d'enfants avant la puberté, tandis que le texte français parlait d'enfant impubère, c'est-à-dire qui n'a pas atteint la puberté. Et renseignements pris par le Conseil fédéral auprès de pédiatres, c'est que la puberté commence à 10 ans pour se terminer à 14 ans. C'est une moyenne, évidemment. Donc le Conseil fédéral a choisi de prendre le texte allemand qui dit avant la puberté, c'est-à-dire 10 ans, alors que le texte d'origine en français des initiants, c'est-à-dire de la marche blanche, disait un pubère, donc qui n'a pas atteint la puberté, c'est-à-dire qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans. C'est pour ça qu'on s'attendait à une limite d'âge à 14 ans. Maintenant, pourquoi...
Mais pourquoi pas 16, Christine Bussac? Pardon? Pourquoi 14, pourquoi pas 15, pas 16, qui est la majorité
sexuelle? Ça, c'est pas nous. On a voulu, effectivement, tout comme le Conseil fédéral, se tourner du côté des pédiatres pour avoir une notion plus claire du début de la puberté et de la fin. Donc, ils ont convenu que c'était à partir de 10 ans que la puberté commençait, jusqu'à l'âge de 14 ans où elle se terminait. Donc maintenant, je me repose la question, pourquoi le Conseil fédéral a décidé d'utiliser le texte allemand et pas celui des initiants en français? Là est la grande question. Donc là, il y a eu un couac dont nous sommes en partie responsables. La chancellerie fédérale, le Conseil fédéral a traduit notre texte en allemand.
Ouais, mais sur le fond, Christine Bussa, parce que, alors ça, c'est effectivement les détails de l'initiative, mais pourquoi pas 15? Pourquoi ne pas s'éloigner de cette notion de pubère, prépubère et fixer un âge un peu plus haut qui est la majorité sexuelle?
Non, l'âge aurait été justement de 14 ans. Renseignement pris auprès des pédiatres. Les pédiatres ont dit, ça commence à 10, ça finit à 14, donc un enfant est pubère à 14 ans. Donc on parle de cet âge-là. Si les pédiatres avaient dit 15, on aurait dit 15.
Mais Christine Bussa, là, on se base sur la pédiatrie, sur une évolution physiologique. Or, on sait bien que ce genre de crime, de délit commis sur des enfants ou des adolescents, des répercussions psychologiques énormes. Et à ce moment-là, on se dit, le tort psychologique n'est pas pris en compte quand on base l'âge sur la puberté.
Non, je crois qu'il faut voir aussi un autre critère, c'est que... jusqu'à un certain âge, l'enfant, par exemple, qui est violé par son père ou par un proche, est encore sous la menace, est encore sous l'emprise de la personne. On peut se dire qu'à partir de 15-16 ans, cet enfant, il est quand même informé, il y a l'éducation sexuelle à l'école. On peut se dire qu'il aura peut-être pas besoin encore de 10 années ou plus pour se décider à déposer plainte. Voilà. Donc quand on a parlé d'enfants impubères, c'est qu'on laissait la porte ouverte justement aux pédiatres et aux gens plus compétents que nous pour dire à quel âge la puberté commence, à quel âge elle finit et à quel âge un enfant a, si vous voulez, la possibilité de parler plus vite.
Christine Bussa, je vous remercie d'être venue réagir à cette décision du Conseil fédéral. Peut-être une dernière question, Simonetta Sommaruga, vous avez l'impression qu'elle pourra soutenir éventuellement votre nouvelle initiative qui veut interdire aux pédophiles de travailler avec des enfants? Là, vous avez reçu des signes.
Je vois difficilement qui pourrait ne pas soutenir cette initiative.
Vous savez, on ne sait jamais.
On sait jamais.
Tout arrive en politique, Christine Bussa. Mais vous n'avez pas reçu de signes particuliers de Simonetta Sommaruga?
Non, pour l'instant, encore rien du tout.
Je vous remercie.
On a bon espoir.
Excellente soirée, au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Et le plaisir d'accueillir ce soir dans Forum Cornelio Sommaruga. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci. Vous êtes arrêté à notre studio de Genève avant votre départ en Tunisie. Ce sera samedi. Vous vous y rendez au nom de la Fondation pour le Futur. C'est une fondation que vous présidez. Une fondation qui s'engage à soutenir les organisations de la société civile, qui œuvre à promouvoir les droits humains, la gouvernance démocratique, la citoyenneté, tout un programme. À 80 ans, Cornelio Sommaruga, et après une riche carrière diplomatique, évidemment à la tête du CICR, vous vous arrêtez jamais?
Ah, il ne faut pas s'arrêter, et surtout quand on est confronté à ces drames de non-observation des droits humains, il faut s'engager pour aider la société civile. Et maintenant, avec le printemps arabe, c'est le bon moment d'insister là où on peut vraiment agir. Par exemple, la Tunisie. Je vais en Tunisie, où nous aurons une réunion de notre comité exécutif. Et là, c'était très difficile, sous Ben Ali, de pouvoir trouver la société civile indépendante. Et maintenant, c'est le cas et nous avons toute une série de projets et nous allons, je pense, décider pour un financement de $500,000 pour 7 projets en Tunisie. Et puis, il y en a beaucoup d'autres dans d'autres pays.
En tout cas, c'est tout à votre honneur d'aller sur le terrain, parce que l'engagement, évidemment, il demeure. Mais là, vous allez sur le terrain, vous allez rencontrer ces gens. On peut-être s'interroger sur cette période cruciale qu'est en train de vivre la Tunisie, et d'autres suivent, d'autres le vivent aussi, l'Égypte, sur cette transition à la démocratie. C'est quoi les étapes déterminantes? Vous venez de mentionner une aide financière. Est-ce que ça passe forcément par là, par l'aide financière internationale?
C'est au fond le financement de projets concrets qui s'attelle par exemple à une radio d'un réseau nouveau, qui s'attelle par exemple à des questions de journalistes indépendants qui doivent pouvoir agir. Il y a d'autres projets comme un théâtre mobile qui va, au fond, représenter dans le pays des pièces qui présentent le fonctionnement de la démocratie. Au fond, vous savez, démocratie, c'est pas simplement ce qu'on pense, la gouvernance. C'est beaucoup aussi une question de mentalité. Il faut donc que tout ça puisse se faire. Et j'aurai l'occasion encore de participer, quand j'arrive en Tunisie, à la conclusion d'un grand forum de la fondation Annalint. Cette fondation Annalint euro-méditerranéenne est surtout axée de nouveau sur la société civile, mais sur les échanges culturels.
Je veux m'arrêter sur une chose que vous avez prononcée. La démocratie, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité, c'est aussi une question de culture. Est-ce qu'il y a des craintes aussi à ce niveau-là? Les droits de l'homme, les droits humains, c'est pas les mêmes peut-être pour tous. On a des craintes par rapport à la montée de l'islamisme, par exemple, dans ces pays. Est-ce qu'il y a un problème de définition aussi?
Bon, moi je pense que les droits de l'homme sont les mêmes pour tout le monde. La Déclaration universelle est partie de la Charte de l'ONU, mais il y a des interprétations différentes. Et il faut naturellement là s'axer sur une interprétation qui soit la plus saine possible. Et je crois que c'est le bon moment de le faire. Mais je dirais que en allant en Tunisie, je ne perds pas de vue les grands problèmes qui existent ailleurs dans d'autres pays comme la Syrie, le Bahreïn, et puis naturellement la Libye, où ces problèmes n'ont pas été résolus.
Alors, il y a d'autres étapes. On a une étape juridique cette semaine avec Ben Ali qui a été condamné, 35 ans de prison, des amendes. Son fils également a une sentence aujourd'hui. Alors, en même temps, le système juridique a été critiqué. Évidemment, c'est par contumace, etc. Mais est-ce que c'est une étape importante? Vous considérez que c'est important?
Moi, je considère que c'est très important pour aussi calmer un petit peu les mouvements de place qu'il y a, le même mouvement de la rue, pour montrer que la justice tunisienne prend cette affaire très au sérieux. Naturellement, on peut se demander pourquoi ce procès en contumace, mais ce n'est pas nécessairement le problème de la justice tunisienne, c'est plutôt le fait que M. Ben Ali n'a pas pu bouger de l'Arabie Saoudite. Donc, je pense que tout ça est un processus assez lent, mais espérons qu'il aille dans la bonne direction, parce que en transition, on ne sait jamais où on va finir. C'est pour ça qu'il faut les aider. C'est pour ça que je vais avec ma fondation pour pouvoir pousser des projets sains qui puissent les aider dans le domaine de la démocratisation et des droits de l'homme.
Cornelius Maruga, pour conclure, peut-être un mot sur comment tout cela a commencé. On a beaucoup parlé de ces réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de cette jeunesse qui s'est exprimée sur la toile, qui a réussi à rallier, à enthousiasmer le monde entier. Pour vous, votre regard, vous avez 80 ans, vous n'avez jamais pu suivre une révolution faite comme ça sur Internet. Qu'est-ce que ça vous a fait comme effet? Ça vous a enthousiasmé aussi, les moyens
utilisés? Oui, ça m'a vraiment enthousiasmé parce que j'ai vu la jeunesse qui était capable de réagir, malgré qu'elle avait été gardée sous contrôle par un système qui ne donnait aucune flexibilité. La jeunesse a eu la force de réagir, et cette force de réagir venait aussi un peu de la désespération, parce que c'était des gens qui socialement étaient complètement en marge, chômage, pauvreté, et il fallait faire quelque chose. Et ça a été le cas en Égypte, ça a été le cas en Tunisie, et c'est encore le cas dans d'autres pays où la révolution, entre guillemets, avance lentement.
Cornelio Samaruga, je vous remercie infiniment d'être venu dans Forum. Vous partez samedi en Tunisie au nom de votre fondation, la Fondation pour le Futur. Je vous remercie, je vous souhaite un bon voyage, une bonne soirée.
Merci beaucoup. Bon.
Dans le canton de Vaud, le Parti libéral radical ne veut pas de ticket commun avec l'UDC pour la course au Conseil des États. Il a refusé hier la proposition de l'UDC de partir sur un ticket à deux candidats. L'UDC était prête à retirer le conseiller national Guy Parmelin pour ne garder que le conseiller d'État Jean-Claude Mermoux. En échange, l'UDC souhaitait que le PLR retire la candidature du député libéral au Grand Conseil Jean-Marie Sourer et ne garde que la conseillère nationale Isabelle Moret. Bref, un deal que vous avez refusé. Christelle Luizier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président des radicaux vaudois. Alors, c'est une question à laquelle vous vous attendez. En face, il y a le ticket sortant, Rose-Vert, Savary, Recordon. Et puis, la droite, les libéraux radicaux refusent de voir un ticket un peu plus serré avec l'UDC. Vous allez à la défaite?
Alors, ce que nous voulons, c'est une option avec une clarté pour les citoyens vaudois. Je rappellerai tout d'abord qu'une élection au Conseil des États, c'est une élection à la majoritaire à deux tours. Et traditionnellement, le premier tour, c'est un tour de parti. Ça permet pour nous d'expliquer nos positions, d'expliquer nos valeurs. Ça permet aussi aux citoyens de se forger son opinion et puis de choisir en connaissance de cause sur la base de programmes clairs. Et puis, le deuxième tour, c'est quelque chose de différent. Et là, pour ce deuxième tour, nous plaidons pour un rassemblement de l'ensemble des forces de droite.
Donc ça veut dire un deuxième tour avec là, un UDC et un libéral radical sur le même ticket?
Alors, ça dépend évidemment des cas de figure, mais c'est l'idée donc d'avoir les meilleurs candidats de droite ou le meilleur candidat de droite au deuxième tour. Et dans ce cadre-là, je lance aussi un appel. Ce n'est pas uniquement vis-à-vis de l'UDC, mais c'est vis-à-vis de l'ensemble des partis qui pourraient présenter à droite un candidat au Conseil des États, et bien de se rassembler pour ce deuxième tour.
Mais vous le savez bien, c'est une question de dynamique aussi, Christelle Luizier. Sur le premier tour, le ticket de gauche fait un score canon. Et vous, des scores un peu mitigés, forcément avec la division, vous serez mal parti pour gagner au deuxième.
Alors, ce que je rappellerai par rapport à ça, c'est qu'en 2007, lors de la dernière élection fédérale, la gauche est partie avec deux tickets au premier tour. Donc, ils n'étaient pas unis entre les socialistes et les verts. De notre côté, il y avait un ticket UDC radical et ça n'a pas non plus fonctionné de ce côté-là. Donc, je ne crois pas qu'il y ait véritablement de tactique unique par rapport à ça. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a énormément de candidats pour le Conseil des États. Notre objectif, c'est de provoquer un ballottage au premier tour.
Ce serait la moindre, Christelle Luizier, pour la droite dans le canton.
Non, mais s'il y a ce ballottage pour le premier tour, on a de très bonnes chances pour le deuxième. Et ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a beaucoup de candidats, il y aura aussi des candidats à la gauche de la gauche. Eh bien, ça permet aussi d'augmenter le nombre de listes de suffrages. Et donc aussi, il y aura plus de difficultés à atteindre la majorité absolue. Et donc, dans ce cadre-là, pour nous, c'est un espoir vraiment grand de pouvoir avoir un siège pour rééquilibrer, et ça c'est une de nos envies, de rééquilibrer la représentation à Berne.
Ouais. Voilà, Christelle Luizier, c'est une vieille question, on vous reçoit, il me semble souvent, pour parler des alliances possibles avec l'UDC, les libéraux radicaux dans tous les cantons. Puis à Genève, aujourd'hui, ça se passe assez mal. Cyril Hellène, qui était le président sortant du parti, du défunt parti libéral qui est devenu libéral radical, a démissionné avec fracas. Il reproche notamment la peur du parti vis-à-vis d'une alliance avec l'UDC. En gros, il dit qu'on les libéraux radicaux se laissent dicter leur tactique par les adversaires. Il faudrait oser cette grande alliance à droite. Vous avez envie de lui répondre, peut-être à travers l'aversoi. Qu'est-ce que qu'en pense la présidente vaudoise des radicaux?
Moi, ce que je dis, c'est que sur un premier tour, il est très important aussi de faire valoir ses opinions, de faire valoir ses valeurs, de faire valoir les convictions d'un parti. Je crois qu'il est clair aussi qu'il y a d'autres types de droites dans ce pays, une droite conservatrice, une droite plus ouverte, incarnée par le PLR, qui est orientée solution. Et dans ce cadre-là, dans un premier tour, c'est important que nous puissions nous exprimer, notamment, je dirais, sur les questions liées à l'immigration, la libre circulation des personnes. En revanche, sur un deuxième tour, eh bien là, je plaide pour un rassemblement de l'ensemble des forces de droite.
Christelle,
je dirais
Lisier,
aussi
oui.
que sur les élections fédérales, il n'y a pas que le Conseil des États, il y a aussi le Conseil national. Et dans ce cadre-là, c'est très important aussi pour la droite qu'il y ait des candidats qui soient candidats aux États et qui soient les chefs de file.
Ouais, c'est de plus en plus comme ça. Hein, les candidats aux États sont là aussi pour se montrer dans les médias. Hein, c'est important pour les listes
Alors,
nationales.
C'est extrêmement
de plus en plus.
Important d'avoir cette visibilité aussi pour obtenir les sièges au Conseil national.
Christelle Lisier,
dans ce cadre-là, pour la droite.
Vous êtes présidente des Radicaux Vaudois. Vous connaissez la charmante commune de Botan. A priori, vous en avez quel regard? Plutôt sympathique, plutôt sereine comme commune?
Alors, a priori, oui.
C'est une question piège.
Mais je crois savoir qu'il y a effectivement quelques événements qui s'y déroulent.
Oui, bah, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Merci beaucoup, Christelle Lisier.
Je vous prie, au revoir.
Béatrice Métro est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la syndic de Botan. On a presque l'impression que c'est une sorte de Bronx du Gros-de-Vaud. À lire un article de 20 minutes ce matin qui révèle des prédations, incivilités, des mères de famille qui ont peur de laisser leurs enfants sortir à Botan. Et puis, les autorités qui ont lancé un appel solennel au respect, semble-t-il, une lettre envoyée aux habitants. Qu'est-ce qui se passe, Béatrice Métro, à Botan?
Alors d'abord, une petite correction, je ne suis pas la syndic de Botan, je le serai à partir du
1er
juillet.
Oui, vous êtes la nouvelle syndic de Botan, j'ai 10 jours d'avance.
Vous avez 10 jours
Absolument.
D'avance. Absolument. Alors non, je tiens à rassurer, la population de Botan, comme la population des autres villages avoisinants, ce n'est pas le Bronx à Botan. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre d'incivilités, ça fait déjà 2-3 ans que ça dure. Et là, il y a eu vraiment un tournant un petit peu délicat, là, il y a une quinzaine de jours, lorsque la voiture de la municipale de police, puisque je ne suis pas municipale de police, mais la voiture de municipale de la police s'est fait vraiment abîmer par brise cassée, carrosserie rayée. Alors là, en séance de municipalité, nous avons décidé à l'unanimité d'écrire un texte aux citoyens qui, je dois le dire, n'était pas du tout destiné à la presse.
Oui, bon, ça, c'est la plupart des textes ne sont jamais destinés à la presse, mais ils terminent tout le temps. Béatrice Métro, mais en fait, c'est parce que c'est un peu personnel, il ne faut pas s'attaquer à la voiture de quelqu'un de l'exécutif. Alors là, on réagit avec les gros moyens, c'est ça?
Non, c'est l'accumulation d'un certain nombre de choses. Ce qui nous a aussi beaucoup fâchés, c'est que les fleurs, c'est un symbole peut-être idiot, mais n'empêche que les fleurs à l'entrée du village ont été piétinées. Et ça, ce sont des actes gratuits que nous ne supportons pas.
Vous reconnaîtrez, Béatrice Métro, il faut que jeunesse se passe dans tous les villages du Gros-de-Vaud, peut-être après un giron des jeunesses, on se permet de piétiner quelques fleurs, rien de très nouveau là-dedans.
Alors le week-end où les fleurs ont été piétinées, les fameuses fleurs, il n'y avait pas de giron, pas encore. Ce sera la semaine prochaine à Brétigny.
Dieu sait ce qui va se passer dans la région, vous avez quelques appréhensions?
Non, nous avons pris un certain nombre de mesures. Mais c'est vrai qu'il faut que jeunesse se passe. C'est évident qu'on ne doit pas rentrer dans un système de répression à tout craint. Voilà, il faut examiner trois piliers. C'est d'abord la prévention et puis après la réinsertion, entre guillemets, réinsertion de jeunes dans les villages. Ouais. Ça fait drôle d'en parler, mais c'est quand même ça. Et puis, malheureusement, les sanctions pour ceux qui abîme, vol, parce qu'on a eu aussi des vols, par exemple, à l'église. Et ça n'est pas acceptable.
On vole les troncs dans les églises encore en 2011, dans le canton de Vaud. Ça paraît un peu suranné, cette discussion qu'on a, Béatrice Métro.
Absolument, mais ça prouve aussi que les églises sont fréquentées et que les citoyens mettent de l'argent dans les troncs, alors c'est pas mal.
C'est la preuve de la générosité dans le Gros-de-Vaud à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un symptôme de l'urbanisation du pays de Vaud, ce qui se passe à Botan? Vous avez des problèmes maintenant de plus en plus, vous rapprochez de Lausanne, avec plus d'habitants
Ça, c'est indéniable. En 25 ans, la population de Botan a augmenté de 30%. Il est évident que nous allons forcément vers une urbanisation, vers une population qui n'a pas les mêmes règles et qui n'est pas forcément issue du milieu rural. Donc, il n'y a plus cet autocontrôle qu'il y avait avant. Mais voilà, on ne va pas non plus peindre le diable sur la muraille. Ce n'est pas la catastrophe.
On en est persuadé que Botan n'est pas le Bronx du Gros-de-Vaud. Béatrice Métro, je vous remercie. Vous restez avec nous. Vous êtes très bientôt syndic de Botan, également députée verte au Grand Conseil. Béatrice Métro, on va parler tout à l'heure de mondialisation et de démondialisation.
En attendant, on va parler d'une publicité, bancaire. C'est la banque Crédit Agricole qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment dans le domaine hypothécaire. Elle est en Suisse depuis 2000, la banque Crédit Agricole. Cette banque a en effet déclaré une véritable guerre à ses concurrents. Elle ne demande pas 20% de fonds propres, mais 10% seulement pour accéder à la propriété. Christophe Mettler, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint du Crédit Agricole Financement Suisse. Je disais la guerre à ses concurrents parce que c'est vrai, en Suisse, on s'en est fait une habitude, hein, c'est un dogme. C'est 20% de fonds propres, c'est pas autrement. Vous déboulez comme ça sur le marché avec ces 10%. La guerre à la concurrence.
Non, je présenterai pas le sujet de cette façon-là. Nous, on a nullement l'intention de déclarer la guerre à la concurrence. Simplement, nous avons fait un constat aujourd'hui qu'en Suisse, le taux de propriété était relativement bas. On parle de 37% de propriétaires en Suisse, alors que dans la zone euro, on parle de 65%. Fort de ce constat, fort également des fondamentaux qui sont plutôt favorables à l'économie suisse aujourd'hui, il y a un pouvoir d'achat qui est fort, il y a également un taux de chômage bas. Nous sommes dit qu'il devrait avoir un potentiel de clientèle susceptible de pouvoir répondre à une telle offre. Aujourd'hui, je dirais qu'on vise deux types de populations. Tout d'abord, on axe tout d'abord notre communication sur les gens qui n'ont pas pu mettre de côté les 20% d'apport. C'est essentiellement, je dirais, de jeunes actifs qui viennent de se lancer sur le marché du travail et qui n'ont pas pu constituer l'apport nécessaire. La deuxième population, c'est plutôt des gens aujourd'hui qui ne souhaitent pas utiliser, que ce soit leur deuxième pilier. Et on en rencontre quand même de plus en plus, je pense que c'est à raison, où ces personnes-là souhaitent également optimiser fiscalement avec la déduction des intérêts hypothécaires.
Mais Christophe Mettler, on comprend bien effectivement vos arguments par rapport à la Suisse, mais justement, si c'est la Suisse a cette structure économique-là, c'est qu'elle s'est comportée plutôt prudemment jusqu'ici. La crise des subprimes, elle est quand même partie d'un manque de prudence des banques, tout comme la crise immobilière des années 90 d'ailleurs. On a vraiment donné trop de crédits, on n'a pas demandé assez de garanties, trop de risques. Là, il n'y a pas d'apprentissage à ce niveau-là. Vous dites, oh c'est bon, c'est reparti, on peut continuer, on peut recommencer en tout cas à proposer comme ça des produits avec des fonds propres seulement à 10%.
Non, mais au contraire. Alors c'est certain que pour nous, d'abord notre client et ensuite la banque, on a bien fait attention aux risques que ces entités-là pouvaient courir. Aujourd'hui, pour un client, lorsqu'on prête 10% de fonds propres, on ne le prête pas à tout le monde. On va bien s'assurer que le client à qui on prête ses 90% a la capacité contributive nécessaire pour faire face à cet engagement-là.
Et alors justement, ça vous le vérifiez comment, Christophe Mettler ?
Quand on le fait, on sait qu'aujourd'hui les taux sont plutôt bas. Quand on va faire notre calcul pour
savoir,
ils vont monter. Donc on ne va pas partir
les prix aussi.
Sur le taux, sur les prix également.
Voilà.
On va pas regarder le taux que paye le client actuellement, mais on se base sur un taux d'intérêt théorique. Aujourd'hui, si je prends un taux fixe 5 ans qui est à moins de 3%, nous, dans le cadre du calcul que l'on fait, on applique un taux théorique de 5% auquel on ajoute 1% de charges d'entretien ainsi que l'amortissement. Donc, en gros, on fait un calcul sur la base d'un taux de 6,5% alors que le client, dans la réalité, ne paye que 3%. Donc, pour nous, c'est important de sécuriser le client, mais également la banque, parce que cette offre-là, aujourd'hui, on l'a fait en partenariat avec le groupe Crédit Logement, qui est un acteur financier important sur le marché français et qui lui-même nous garantit 10% de ses 90%. Et ce qui est important de préciser, c'est non seulement nous, en tant que banquiers, nous allons vérifier que notre client a les moyens de payer sa dette hypothécaire, mais Crédit Logement fait exactement le même calcul puisque eux sont en blanc. Donc le montant qu'ils garantissent pour le client, ils n'ont aucune emprise sur le bien.
Christophe Mettler, à l'instant où je vous parle, les dépêches tombent. Le gouvernement grec a approuvé la loi de mise en œuvre du plan d'austérité, ce fameux plan d'austérité drastique. C'est pas innocent que je vous soumette cette nouvelle-là, puisque vous êtes exposé à cette crise grecque. Votre banque est l'un des établissements qui est surveillé par l'agence notation Moody's, avec à la clé évidemment une possible baisse de votre notation. Vous êtes inquiet ?
Alors à mon niveau, pour Crédit Agricole Financement Suisse, nous ne sommes pas du tout concernés, je dirais, directement par la problématique de la dette grecque. C'est plutôt les spécialistes de Paris qui pourraient répondre à cette question-là. Là, je suis bien incapable de vous répondre à cette question-là, faute de connaître suffisamment le dossier.
Christophe Mettler, vous avez quand même dû venir devant la presse, devant les médias, pour vous expliquer sur cette pub. C'est une culture suisse quand même. C'est différent que la France. Quand on fait des publicités un peu offensives, il faut rendre des comptes.
Non, simplement, je pense qu'il y a eu une incompréhension par rapport à notre offre. On a surpris, on a innové. Face à cette surprise et cette innovation, on a eu des commentaires divers et variés. On a simplement souhaité clarifier les choses en tenant un discours sécuritaire aujourd'hui. Et je pense que le message a été compris dans ce sens-là.
Et c'est chose faite ce soir dans Forum. Je vous en remercie, Christophe Mettler, directeur général adjoint du Crédit Agricole Financement Suisse. Bonne soirée.
Très bonne soirée.
Infotrafic RSR.
Sur le contournement de Lausanne, un important bouchon s'est formé suite à un accident entre la jonction de Lausanne-Blecherette et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction de Genève. Et sur le contournement de Genève, des embouteillages persistent aussi entre Vernier et le tunnel de Vernier, ainsi qu'entre l'échangeur de Perly et le poste de douane de Bardonnay en direction de la France.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Revat.
Bonsoir Christian Levrat.
Bonsoir.
Vous êtes le président socialiste suisse de retour d'Espagne. Vous avez été à la rencontre des indignés et puis à la rencontre des partis européens qui tenaient une conférence, une séance, une réunion en Espagne. Double rencontre. Sur Twitter, vous disiez hier, j'y suis allé pour comprendre d'ailleurs dans ces deux rencontres. Vous avez compris d'abord les indignés qui posent quelques problèmes aux partis en place en Espagne, mais aussi chez nous peut-être.
Bon, je crois que c'est un phénomène qui est commun à l'ensemble de l'Europe. Je suis arrivé dimanche soir à Barcelone. Un peu par hasard dans une manifestation de 100 000 personnes. Pendant plusieurs heures, j'ai essayé de parler avec les responsables de cette manifestation, avec de simples manifestants, avec des gens qui finalement décrivent un peu tous la même réalité. On a en Espagne la génération la mieux formée de l'histoire de ce pays, probablement vrai pour le reste de l'Europe également, mais une génération qui est confrontée à un taux de chômage de 30% parmi les plus jeunes, qui voit son avenir se boucher alors qu'on lui avait promis que l'éducation lui ouvrirait toutes les portes d'une vie meilleure. Et ce qui m'a frappé en fait en discutant avec ces gens, c'est de constater à quel point ils considèrent que la politique est impuissante, à quel point ils ont l'impression de voir un monde politique dominé complètement par les marchés, de voir finalement le sort de la Grèce ou de l'Espagne se jouer dans les agences de notation de Wall Street plutôt que dans leurs parlements nationaux.
Ils voient les socialistes impuissants au pouvoir aussi. Hein.
Bon, des socialistes qui aggravent évidemment la situation, des socialistes au pouvoir en Grèce et en Espagne qui sont contraints de mettre sur pied des politiques qui sont des politiques néolibérales décidées à Bruxelles et au FMI.
Drôle de socialiste alors.
Des politiques d'austérité. Bon, c'est là que la séance était intéressante avec les responsables des partis socialistes européens que j'ai eu lundi et mardi. On se voit tous les 6 mois à peu près pour discuter de questions internationales qui nous paraissent importantes. Et là, c'était assez frappant de voir finalement les partis socialistes nationaux tous dire la même chose. Ce qu'il faudrait pour l'Espagne et la Grèce, c'est un plan d'investissement. C'est un engagement beaucoup plus fort. C'est un plan Marshall pour la Grèce, un plan Marshall pour l'Espagne, pour créer de l'emploi, pour se développer avec la croissance. Et les partis socialistes des deux pays concernés mais font exactement l'inverse. Ils mettent sur pied des politiques d'austérité qui sont rejetées, à mon sens, à juste titre par la rue espagnole.
Il y a comme un parfum de révolution dans cette rue espagnole. En Grèce aussi, Christian Levrat, mais pour les partis socialistes, sociaux-démocrates, appelons-les comme ça, c'est toujours été un peu la crainte, ça a toujours été l'antagonisme, c'est un peu l'extrême-gauche qui vous appelle les social-traîtres. Vous devez gérer un peu cet antagonisme aujourd'hui. C'est difficile pour vous. Vous êtes un peu les installés, non?
Non, je crois que le rôle des partis socialistes en Europe, c'est d'entendre cette révolte. C'est d'entendre surtout la critique qui est faite, et ça m'a frappé de voir que ce qui se disait dans la rue dimanche soir, c'était la même chose que ce qui se disait dans les salons un peu plus feutrés de nos séances par la suite. C'était il faut restaurer la primauté du politique sur le monde financier. Il faut faire en sorte que les décisions, les vraies décisions, soient prises de manière démocratique, qu'on ait une vraie participation dans les choix de société, et que ce soit pas les agences de notation qui dominent au final. Et cet engagement pour restaurer la crédibilité du politique, pour restaurer sa force face au marché, c'est ce qu'on tente de poser sur la table du débat politique en Suisse depuis maintenant 2 ans, en tentant de tirer le bilan de l'affaire UBS, en tentant d'expliquer pourquoi il faut réguler davantage les banques, pourquoi il faut augmenter les pouvoirs du Parlement et du Conseil fédéral face aux lobbyistes de la Bahnhofstrasse et zurichoise. Et ce combat-là, c'est un combat dans lequel nous sommes tous engagés, qui est déterminant pour l'avenir de nos sociétés, qui est déterminant aussi pour redonner l'espoir à tous ces jeunes qui étaient dans la rue, que la politique peut faire changer les choses, que les partis ne sont pas égaux entre eux, qu'il y a de véritables différences entre les politiques d'austérité de la droite, qui font payer à la population, aux gens les plus simples, les coûts de la crise économique, et les politiques de croissance de la gauche qui misent sur l'emploi et qui entendent faire payer les coûts de la qui est en train de faire payer les coûts de la crise, justement, à ceux qui ont initié cette crise et non pas aux victimes.
Mmh. Christian Levrat, on parlait hier soir, hein, Pierre-Yves Maillard, Pascal Couchepin, on débattait des raisons pour lesquelles la Suisse a une telle insolente santé économique, fiscale, financière, dans cet océan un peu de malheur européen. Et puis, on a cité notamment la Banque nationale suisse indépendante qui a permis de sauver l'UBS. Il y a le franc qui est... On a gardé le franc, on a gardé une certaine marge de manœuvre. Et puis, on se dit, bah, vous qui en appelez, qui vouez le franc fort aux gémonies, c'est en même temps une sorte de garantie pour la Suisse par rapport à tous ces pays européens. On peut s'en sortir grâce à lui aussi.
Bon, le franc joue certainement un rôle là-dedans. Maintenant, il faut voir qu'en Europe, on a des pays qui se portent extrêmement bien. C'est le cas de l'Allemagne, malgré la politique de la Banque Centrale Européenne, malgré la crise de l'euro, l'Allemagne se porte aussi bien, sinon mieux que la Suisse.
Aujourd'hui, vous ne demanderiez pas une adhésion avec l'euro, par exemple, pour les socialistes, c'est fini.
On l'a jamais demandé. On a toujours été partisans, en fait, d'une adhésion à terme, ou au moins de négociation d'adhésion, mais sans reprendre
l'euro. On n'a pas lu les petits caractères au fond du contrat, alors.
Mais aujourd'hui, la question que je me pose, elle me paraît être assez sérieuse, c'est de savoir si nous ne sommes pas en train, par la petite porte, d'être tellement liés à la politique de la Banque Centrale Européenne que, de fait, nous en devenons dépendants. Comme si, au lieu d'adhérer à l'Union Européenne en gardant le franc, nous renoncions à adhérer tout en devant reprendre au moins les inconvénients de l'euro. Vous voyez, quand on parle de crise de l'euro, ça a des conséquences très concrètes. Le franc se renforce, nos emplois en souffrent. On considère que 100 000 emplois vont disparaître à moyen terme en raison de la surévaluation du franc. Ça a des emplois sur la politique fiscale de notre pays. Les pressions contre la Suisse n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. On constate dans l'Union européenne qu'il était un peu idiot de créer l'euro en renonçant à créer une politique fiscale commune et en renonçant à créer une politique économique commune. Donc la pression augmente sur tous les pays de la zone euro, ouais. Mais elle augmente aussi sur les pays voisins de la zone euro pour harmoniser les politiques fiscales. Donc on voit qu'on est dans un monde qui est très dépendant et où l'indépendance que nous offre sur le papier la Banque nationale et le franc est toute relative.
Christian Levrat, cette rencontre des dirigeants socialistes européens, c'est pas l'international, précisez-nous, c'est pas cette rencontre où on a pu voir ces internationales, quelques vieux caciques, dictateurs, ici ou là, c'est autre chose.
Non, c'est pas un hasard, si je suis jamais allé à l'international socialiste, j'ai aucune envie de côtoyer ces gens-là. Par contre, je me rends régulièrement à la séance des présidents des partis socialistes européens, présidents et présidentes, pour une raison assez simple, c'est que je crois qu'il y a beaucoup des questions qu'on traite en Suisse qui doivent aussi être résolues à l'échelle internationale, que la Suisse est comme d'autres victime de cette dictature des agences de notation, de la puissance des marchés, et que la défense de nos intérêts, la défense d'une vision d'une Europe qui est autre que celle à laquelle on assiste aujourd'hui, que la défense de cette vision fait partie de mon travail.
Christian Levrat, de retour d'Espagne, manifestement ça vous a inspiré aussi cette rencontre avec les indignés puis les dirigeants européens. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de démondialisation. Ça pourrait être le mot de l'été 2011 en France, en tous les cas. C'est un livre qui lance le débat, celui du socialiste français Arnaud Montebourg. Voter pour la démondialisation, c'est son titre. La mondialisation, selon lui, doit être teintée d'un peu plus de protectionnisme à l'échelle européenne, teintée d'écologie aussi. On va en parler avec vous, Christian Levrat, puis Victor Doprado qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur adjoint de l'OMC en direct de Genève. L'OMC est pour cause, la mondialisation c'est votre truc pour le moins. Tout a commencé à Genève, pourrait-on dire, le GATT d'abord, l'OMC ensuite. Béatrice Métraux, restez avec nous quelques instants encore, députée verte vaudoise. Victor Doprado, vous regardez d'un œil un peu amusé, me disiez-vous tout à l'heure, ce livre. Vous disiez c'est quelque chose d'assez, de très français, très européen de parler de démondialisation.
Tout à fait. D'abord, qu'est-ce que c'est la démondialisation ? Il faudrait peut-être préciser le concept. C'est un concept effectivement qui est très à la mode, mais qui n'est pas nouveau. Il a été créé début des années 2000 par l'économiste Walden Bello. Il a été repris plus récemment, comme vous avez dit, par Jacques Sapir et puis par Arnaud de Montebourg. Il ne fait pas l'unanimité parmi les altermondialistes. C'est un principe, un concept selon lequel on doit réaffirmer l'autosuffisance, réaffirmer le protectionnisme, une hausse généralisée des barrières, réintroduire des droits de douane, retour à un modèle de substitution d'importation, démantèlement des organisations économiques internationales, Vraiment un vaste programme qu'on pourrait peut-être résumer en vivons heureux, vivons cachés.
Oui, mais tout de même, à l'échelle européenne, ça fait quand même un sacré marché. Victor de Prado, c'est un protectionniste tout relatif. Vous comprenez qu'on puisse vouloir mettre quelques limites, par exemple, au niveau social, au niveau écologique, demander que les produits qui s'échangent soient produits selon certaines normes sociales, certaines normes minimales écologiques. C'est pas le bon sens, hein?
Mais tout à fait. Ce qu'il faut penser, c'est que l'OMC n'est pas l'organe de la mondialisation. L'OMC, c'est l'organe du règlement de la mondialisation. Ce qu'on veut, ce n'est pas la mondialisation à tout prix, c'est régler la mondialisation. Je viens d'entendre M. Levrat, il n'y a rien de ce qu'il dit avec lequel je sois en désaccord. Il y a deux domaines dans le monde international qui n'ont pas été proprement réglés. Le premier, c'est la finance, et nous vivons en ce moment les conséquences. Et le deuxième, c'est l'environnement. Mais c'est le manque de règlement international de ce domaine qui a le problème.
Christian Levrat, vous, quand vous lisez Montebourg, vous entendez ces thèses qui circulent beaucoup chez les socialistes aussi. Vous êtes en accord avec sa volonté de vouloir recadrer un peu tout ça?
Bon, avec ce que dit Arnaud de Montebourg sur ce point-là plutôt, parce qu'il est beaucoup plus nuancé que l'exposé qui a été fait précédemment, ce qu'il dit, c'est que nous devons poser des conditions sociales, écologiques, des conditions liées au droit du travail, à la mondialisation, que nous devons l'encadrer davantage et que lorsque nous avons des situations qui sont des situations de concurrence déloyale ou grâce à des salaires outrageusement bas, avec des conditions sociales dramatiques ou au mépris de l'environnement, des biens sont produits bien meilleur marché à l'étranger que ça peut être le cas en Europe, qu'il faut envisager alors de réintroduire certaines mesures protectionnistes à l'échelle du continent. Maintenant, il faut voir, et ça nous ramène à la discussion précédente, c'est une proposition qui s'inscrit dans un cadre européen, c'est quelque chose d'absolument inimaginable dans un petit pays comme la Suisse, complètement orienté vers l'industrie d'exportation. Mais il n'empêche que nous aussi, on doit soumettre nos accords commerciaux à des exigences en matière sociale, écologique ou de droit du travail. Pour moi, il est hors de question de continuer à accepter des accords de libre-échange s'ils ne sont pas assortis de clauses de ce type-là.
Victor de Prado, ça vous va comme discours ou ça va trop loin?
Écoutez, je ne suis pas là pour défendre ou pour critiquer monsieur Montebourg. Ce que je peux dire, c'est que si tout le monde commence à rehausser les barrières, on connaît la conséquence. C'est ce qui a été fait dans les années 30. Et puis, il y a eu les années 40. Et on connaît l'histoire. Il y a une partie des conflits mondiaux qui
forcément
sont résultats.
C'est la conséquence.
Écoutez,
automatique.
Il y a un dicton qui dit « Par là où ne passent pas les marchandises, passent les canons ».
Est-ce que ça n'est pas tirer un trait un peu rapide?
C'est peut-être tirer un trait. Je le crois vraiment, sincèrement. Nous avons fait récemment un exercice, je vous dis comme anecdote, avec nos amis du Haut Commissariat des réfugiés. C'est peut-être une coïncidence. Nous avons demandé à nos amis du HCR quels sont les principaux pays où on a des problèmes de réfugiés. Or, il s'avère que c'est exactement les pays qui ne sont pas membres de l'OMC.
Une sorte
intéressant, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, mais après, il faut accepter d'en voir un lien vraiment réel et non pas de coïncidence. Béatrice Métro, vous vouliez intervenir, notamment sur le plan écologique, vouloir mettre des normes minimales, j'imagine, ça vous convient pour la...
Bien sûr, ça convient au vert de mettre des normes écologiques minimales en matière de production agricole, parce qu'en définitive, on ne voit pas pourquoi le marché suisse serait inondé de produits agricoles venant de Pologne, je pense au blé et autres, dont on ne connaît pas les conditions de production, alors qu'ici, nous avons des normes particulièrement sévères que nos agriculteurs respectent, qui font que nos produits sont chers et nos agriculteurs ne peuvent pas les vendre. Alors, voilà, donc je trouve ce concept de démondialisation assez intéressant, puisque finalement, elle signifie des règles de production agricole correctes, des règles sociales, des règles de droit du travail, comme cela a été dit, et nous militons vraiment pour ce type de règles.
Mais Christian Levrat, Victor de Prado, un avertissement assez solennel, hein. S'il n'y a pas de libre-échange, il y a la guerre, hein. C'est à peu près ce qu'il nous dit. Et puis, il a peut-être pas tout tort parce que c'est depuis que l'Allemagne et la France ont conclu ces premiers accords de libre-échange qui ont donné lieu ensuite à l'Union européenne que tout se passe plutôt calmement chez nous.
Bon, le raccourci est évidemment brutal. Je suis pas sûr qu'il en soit exact pour autant. Ceci dit, l'exemple amené par Madame Metro m'amène à cette précaution. Ceci dit, je pense que s'il est question de rehausser les barrières douanières, ça peut se faire qu'à l'échelle de l'Europe. Et que pour un pays comme la Suisse, on est dans une situation un peu particulière. Je vais prendre le cas agricole qui est, à mon sens, assez symptomatique. On mise sur une agriculture de qualité, sur des produits avec une très forte valeur ajoutée et qui ont besoin pour pouvoir être diffusés d'un marché suffisamment grand pour qu'on ait un nombre suffisant de consommateurs prêts à payer leurs produits agricoles un peu plus cher que les produits standards pour honorer cette qualité-là. Donc on doit chercher des solutions qui sont des solutions trouvées conjointement avec l'Union européenne. Je pense qu'un protectionnisme qui serait réduit aux frontières suisses est dans la plupart des cas pas très intelligent.
C'est difficile à tenir. Victor de Prado, au niveau européen, comme le dit Christian Levrat, certains produits.
Écoutez, je me garderais bien d'entrer en matière pour la politique européenne ou pour la politique suisse envers l'Europe. Ce que je peux vous dire, c'est que si on met des barrières, il y aura d'autres qui mettront des barrières. Donc, on parle, oui, il faut nous protéger, on ne va pas importer des produits agricoles de Pologne ou d'autres pays. Et si la Pologne fait le même pour d'autres produits suisses, et si cela prend des proportions mondiales, on peut avoir un problème.
Vous avez l'impression, Victor de Prado, qu'il y a une sorte de reflux de l'idée de mondialisation. On est allé très loin, ça nous paraissait à peu près naturel, et puis on revient un tout petit peu en arrière. Vous sentez monter là des forces contraires?
C'est une notion très européenne. Si vous allez dans les pays comme le mien, le Brésil, si vous allez en Colombie, au Mexique, en Indonésie, en Malaisie, le discours est tout autre. On ne parle pas de démondialisation. Ce sont des concepts, comme disent les gens dans ces pays, des pouvoirs déclinants.
Ouais, des pouvoirs qui ont été riches, qui déclinent. Christian Levrat, vous pensez un peu à ces pays émergents qui en profitent à fond, qui n'ont pas envie de vos craintes et de vos barrières que vous aimeriez peut-être installer?
Bon, on pense qu'à eux, parce que le but de ces conditions sociales et écologiques dans les contrats de libre-échange, c'est précisément de protéger les salariés de ces pays-là contre une exploitation qui est très souvent le fait de compagnies occidentales qui y sont installées. Donc, à mon sens, c'est l'intérêt bien compris de tout le monde que de s'accorder à dire que dorénavant, il faut renforcer, à côté de l'OMC qui régit les règles de la concurrence, il faut renforcer le rôle de l'Organisation internationale du travail, il faut renforcer le rôle des organisations de régulation bancaire et il faut renforcer le rôle des grandes organisations internationales actives sur le plan climatique et écologique. C'est ça cet équilibre qui doit être créé. Au tournant du siècle précédent, à la fin du 19e siècle, on a su créer chez nous un équilibre entre les représentants du travail et les représentants, disons-le comme ça, du capital. Et aujourd'hui, alors que les capitaux, les entreprises se sont internationalisés, il faut qu'on arrive aussi à internationaliser la défense des salariés, la défense de l'environnement. C'est sur ce nouvel équilibre que peut se construire quelque chose et non pas simplement avec la liberté qui est celle aujourd'hui du renard dans le poulailler, oui, dont bénéficient les grands instituts financiers, les grandes entreprises.
Mais Victor de Prado, c'est un peu la recherche éternelle, celle de Montebourg, celle de Levrat maintenant, une institution, un peu un gendarme supranational qui s'occupe de tout ça. Vous nous dites que ce n'est pas notre rôle. Ça manque un peu cet organe-là?
Je suis d'abord tout à fait d'accord avec ce qui vient de dire Monsieur Levrat. Il faut plus de régulation, pas moins. Il faut renforcer le rôle des organisations internationales. Il faut qu'elles couvrent d'autres domaines qui ne sont pas couverts maintenant. Donc, un gendarme international, cela dépend de ce que ce gendarme aurait le pouvoir de faire. De toute façon, ce que je trouve quand même assez amusant, c'est de parler de démondialisation au même moment qu'on voit le printemps arabe, où il y a un lien si fort avec les réseaux sociaux, avec la technologie et tout cela. Donc ça nous fait sourire encore une fois.
Mais Victor de Prado, vous dites, et vous avez commencé comme ça d'ailleurs, en disant mais nous, l'OMC, on veut mettre des règles. Vous dites là, je suis d'accord avec Christian Levrat, oui, il faut réguler, etc. Mais qui décide à la fin? J'ai envie de poser une question naïve. Moi, j'ai l'impression que le politique a perdu la main, qu'il n'y a plus de gouvernance. Là, c'est un Montebourg qui est candidat politique aux primaires françaises pour la présidence, mais finalement, il peut dire ce qu'il veut sur la démondialisation. La politique aujourd'hui ne décide plus rien, non?
Pas du tout, mais je ne suis pas du tout d'accord. Nous vivons encore un monde westphalien où l'État-nation a le pouvoir le plus absolu. Qui décide?
Alors pas sur les marchés financiers apparemment en tout cas.
J'ai aussi dit, il y a deux domaines dans le monde international où la régulation manque, la finance, l'environnement.
C'est vrai, vous l'avez dit.
Donc, voilà. Il faudrait régler ces domaines. Qui règle dans le monde où nous vivons aujourd'hui, où l'État-nation a encore tout le pouvoir, ce sont les membres des organisations internationales qui décident.
Eh oui, un monde westphalien. Je vous remercie beaucoup, Victor Doprado. Vous êtes directeur général adjoint de l'OMC à Genève. Béatrice Métraud, députée verte vaudoise, puis Christian Levrat, de retour d'Espagne, où il a rencontré les indignés, président du Parti socialiste suisse. Vous êtes indigné, Christian Levrat?
Non, pas indigné, mais motivé, déterminé. Plus que jamais.
Merci beaucoup, une excellente soirée.
Merci, au revoir.
Et on termine avec du football. Bernard Chalande, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouvel entraîneur de Thun en Super League, mais vous êtes surtout l'ancien sélectionneur des moins de 21 ans. Et c'est à ce titre qu'on veut vous entendre ce soir, puisque cette équipe de Suisse des moins de 21 ans affronte ce soir la République tchèque en demi-finale de l'Euro. Ce soir à 21h, ça se passe au Danemark. Double enjeu pour les hommes de Luigi Tammy. S'ils gagnent, ce sera leur première finale de l'histoire dans cette catégorie de jeu. Et puis en même temps, ils se qualifieraient pour les Jeux Olympiques de Londres. Tout un programme. Mais bien sûr, on a envie de dire que l'objectif premier de l'association suisse de foot, ce serait de conserver ces brillants joueurs pour qu'on les retrouve en équipe A. C'est ça l'enjeu. Pourquoi ça ne se passe pas automatiquement, Bernard Chalande?
Bon, les conserver, c'est clair qu'on a toujours ce problème des nationaux, mais je crois que dans la majorité des cas, on arrive à les conserver. On en perd quelques-uns, mais je crois que ça fait partie du jeu, entre guillemets, d'une certaine forme de concurrence qu'il y a entre les pays. Mais je crois que pour la plupart des joueurs, on arrive à les conserver. Donc maintenant, on a fait le nécessaire aussi. On voit déjà que ces joueurs de moins de 21, certains ont déjà joué en équipe A. Donc pour bien leur montrer qu'ils nous intéressent et que nous, on leur donne la chance de jouer très vite en équipe A. Et je crois que ça, c'est quelque chose quand même qui est très important pour ceux qui pourraient douter de leur avenir et peut-être qui auraient peut-être des tendances à choisir un autre pays.
Oui, alors si on vous suit, Bernard Chalande, ça veut dire que les moins de 17 ans qui étaient champions du monde, ils vont continuer, ils vont coller jusqu'à l'équipe A. Bientôt, la Suisse est championne du monde. Je le dis avec le sourire, je l'espère. Je sais bien, Bernard Chalande. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur cette tendance. On entend beaucoup chez les spécialistes qu'aujourd'hui, c'est la fidélisation. Il faut que le joueur, à 17 ans, il ne perde pas un peu les pédales et se dit « Ah ben, je vais jouer en Allemagne, je vais jouer en Angleterre, je vais jouer en Espagne. » Et puis, on le perd de vue. Il faut rester dans une espèce de fidélité dans le même club et puis continuer à travailler. C'est un peu ça, la nouvelle tendance, la recette.
Non, je crois pas que c'est de rester dans le même club, parce que ça c'est fini, ça n'existe plus, il faut pas rêver.
Mais en
après,
même temps,
il y a le moment, il faut pas qu'ils partent trop vite, c'est surtout ça, qu'ils partent trop vite à l'étranger dans des grands clubs où ils sont pas mieux formés qu'en Suisse. Donc c'est ça le combat, c'est que maintenant les agents de joueurs, les grands clubs aussi qui ont des scouts dans le monde entier viennent les regarder en moins de 15 ans et ont tendance à faire leur marché déjà à cet âge-là et à les prendre dans des pays où la formation n'est pas forcément meilleure. Et pour nous, c'est important en Suisse de montrer que notre formation, et on le montre puisque nos 17 ont déjà été champions du monde, nos 17 ont été champions d'Europe, les 21 maintenant se comportent très très bien, donc il y a eu très très bons résultats pour un petit pays comme le nôtre. Il faut leur montrer que nous, on peut leur offrir une très très bonne formation et un vrai avenir. Après qu'ils partent à l'étranger, je crois que ça fait partie du jeu, et ça, c'est pas propre à la Suisse. Vous pouvez prendre pratiquement n'importe quel pays, à part peut-être l'Espagne, qui garde ses joueurs au pays, parce que le championnat d'Espagne est très très intéressant.
Et ça leur réussit, Bernard Chalande, puisqu'ils sont champions d'Europe, champions du monde.
Les petits pays, c'est pas le même raisonnement qui se fait pour les petits pays.
Un petit pays qui se comporte bien, comme vous le dites, et il est en demi-finale, les moins de 21 ans, Suisse, République tchèque, c'est à suivre. En direct sur la première et sur TSR2 dès 21h. Je vous remercie, Bernard Chalande.
Merci.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, au revoir.
À 18h58, la météo, c'est Eric Faucheur. La journée a connu le passage d'un front froid qui a amené des orages et de la fraîcheur dans notre ciel. Les averses pourront encore continuer pour la soirée dans toutes les régions.
Demain, nous devrions retrouver quelques rayons de soleil dès le lever du jour sur les régions de plaine. En montagne, les nuages paraîtront encore un peu, laissant quelques gouttes. L'après-midi, les régions de plaine connaîtront davantage de soleil et le risque d'averse se fera faible en montagne. Le mercure touchera les 14 degrés au réveil du jour sous ce ciel couvert. Il ne dépassera pas les 19 à 23 l'après-midi, 0 à 3000 mètres. Le vent sera encore bien présent en altitude. Vendredi s'annonce changeant avec quelques averses résiduelles en montagne et sur les préalpes. En pleine, le temps s'annonce généralement sec avec des éclaircies. Samedi se montrera bien ensoleillé malgré quelques nuages résiduels sur les préalpes. Dimanche s'annonce bien ensoleillé et nettement plus chaud. Lundi, idem avec un mercure qui frisera les 30 degrés.
La météo vous est offerte par l'école Lemania. Pour en savoir plus, lemania.ch.
Infotrafic RSR
avec Pneus Eiger et son service de maintenance automobile, pneus-eiger.ch.
Les conditions de circulation à brin humide sont difficiles aujourd'hui sur la majorité du réseau routier roman. Les risques d'aquaplanage ou d'aquaplaning en anglais restent élevés. Sur le contournement de Lausanne, un important bouchon de 4 km s'étend entre la jonction de Lausanne-Blecherette et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction de Genève. Le trafic reste saturé sur le contournement de Genève entre Vernier et le tunnel de Vernier, ainsi qu'entre l'échangeur de Perly et le poste de douane de Bardenay en direction de la France, tout comme en sens inverse entre Mérin et le pont sur la Versoix. C'est la fin de cette édition de Forum. On vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Philippe Vaudan et Fabrice Araldi étaient à la technique. Laurent Keller à l'édition. Demain, l'invité du journal du matin, le patron du CIO, Jacques Rogge, dès 7h35. Excellente soirée à tous. Il est 19h sur la première.